Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'horloge enchantée, c'est le titre du roman que Julia Kristeva vient de faire paraître chez Fayard. Franck Ferrand a invité l'auteur cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Julia Kristeva, écrivain, psychanalyste, était venue nous voir tout récemment pour parler de Roland Barthes. Et en sortant du studio, nous avions évoqué ce nouveau roman qui ne pouvait qu'interpeller en moi l'amoureux de Versailles, évidemment. Il y est question de la fabuleuse horloge astronomique de Claude Siméon Passement, un chef-d'œuvre de la science française du temps des Lumières, le seul grand objet qui n'est quasiment, je dis bien quasiment, si on accepte quatre petites décennies, quasiment jamais quitté le château de Versailles, même aux heures les plus agitées de la Révolution. Une belle occasion d'évoquer au passage toute la population de pendules qui sont un peu l'âme carillonnante des châteaux, ou plus exactement de celui-ci, du château des châteaux.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Violaine qui veut en savoir plus sur l'origine des expressions « attendre 107 ans » et « s'en moquer comme de l'an 40 ».
Ce serait très intéressant d'avoir un regard psychanalytique sur ces deux expressions. En tout cas, ce sont des manières de tenir le temps à distance. Nous allons commencer par le maîtriser, ce temps, par le décompter, le retenir, grâce aux belles pendules de Versailles.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Petite précision pour commencer, les pendules sont une catégorie bien particulière d'horloge. C'est en 1657 précisément que le Hollandais Christian Huygens a inventé, et d'ailleurs pour être encore plus précis, il faudrait dire que l'idée vient de Galilée initialement, il a inventé ce pendule suspendu à un fil de soie qui bat la seconde sexagésimale, une unité scientifique de la mesure du temps en quelque sorte. Depuis ce jour, les horloges munies d'un grand balancier de 0,98 m mérite le nom de pendule. Alors, vous savez qu'on n'a pas toujours été aussi précis dans les appellations et qu'on a eu tendance à baptiser pendule des instruments qui n'étaient en vérité que des horloges, mais je n'entrerai pas trop dans ce genre de détails. Dans mon dictionnaire amoureux de Versailles, je posais déjà la question « Pourquoi, disais-je, sommes-nous tous, à des degrés divers, fascinés par les horloges et les pendules du château de Versailles ?» Eh bien parce que, souvent ancienne, elle continue imperturbable à décompter le temps comme elle le faisait déjà bien avant notre naissance et comme elle le feront très sûrement après notre mort. Parce qu'aussi, disais-je, malgré leur âge, elles semblent toujours aussi précises, sont si bien réglées qu'elles persistent à sonner les heures et les demi à peu près tout en même temps. Et ça, c'est une expérience qu'il faut avoir eu la chance de connaître, se trouver dans un appartement meublé, voire parfois maintenant, et ça c'est une merveille, très meublé du château de Versailles, tout simplement dans l'appartement du roi par exemple, dans cette enfilade, toutes portes ouvertes, et entendre presque en même temps, presque simultanément, toutes ces pendules et toutes ces horloges qui se mettent à carillonner en même temps, c'est un moment formidable. Et puis, dans les réponses que j'apportais à ma question, parce que les mécanismes fleurons de l'horlogerie ancienne sont aussi parfaits que les habillages. N'oublions pas que l'on a affaire, et vous verrez quelle partie en tire Julia Kristeva dans son roman, nous avons affaire à de véritables joyaux de l'orfèvrerie, de la bronzerie et de la marqueterie. Toutes ces raisons peuvent compter, mais il y en a une autre qui compte aussi. C'est que, et pardon d'entrer dans un truisme qui aurait hérissé Roland Barthes, Versailles c'est Versailles. Et si je puis dire, et que les pendules de cette maison, évidemment, sont celles de l'histoire. Elles ont marqué l'attente anxieuse du duc de Bourgogne, impatient d'épouser sa petite duchesse de Savoie. Elles ont marqué le compte à rebours interminable de l'agonie du grand roi, le retard de Beaumarchais à tel rendez-vous secret avec le bien-aimé, l'insomnie de Louis XVI, un soir où la reine jouait encore trop et trop tard, les heures qui séparaient Louis-Philippe de sa grande et triomphale inauguration. Bref, ces cadrans, ces aiguilles, ces poids et contrepoids ont mesuré un temps qui paraît peut-être un peu moins anodin que le temps commun. Un grand instrument illustre cette idée. C'est l'horloge la plus visible du château. Elle est sise au-dessus de la chambre du roi, au beau milieu du fronton de la cour de marbre. Au départ, ses aiguilles ne tournaient pas, il faut le dire. C'était ce qu'on appelle un memento mori, et ça ne servait qu'à indiquer l'heure de la mort du dernier roi. Et donc on avait, en l'occurrence, depuis très longtemps, on avait l'heure de la mort de Louis XV qui figurait comme ça sur ce cadran de l'horloge de la cour de marbre. Et puis, lorsque Louis-Philippe a fait restaurer, ou plus exactement, a fait réaménager le château de Versailles pour en faire des galeries historiques, en bon bourgeois, Louis-Philippe était tout sauf un bourgeois, mais il avait quelque part une mentalité bourgeoise. Il s'est dit que cette horloge devait marcher comme les autres. Il est allé contre le symbole, il l'a équipée d'un mécanisme et il l'a mise en marche. J'ai envie de dire heureusement, au début du XXe siècle, l'horloge est tombée en panne. Et le conservateur de l'époque, Pierre de Nolhac, l'a remise exactement à l'heure de la mort de Louis XV. Sauf que vous savez comment sont les mécènes, ils veulent s'occuper de tout. Et parfois c'est pour le meilleur, parfois pour le pire. En l'occurrence, un mécène, à la fin des années 1990, a décidé de réparer le mécanisme de Louis-Philippe. Et de nouveau, vous avez dans la cour de marbre du château de Versailles, une horloge qui indique l'heure, mais l'heure qu'il est, un peu comme une horloge de gare.
Un extrait de la symphonie de l'horloge de Joseph Haydn sur Europe 1. Et cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes à l'heure des horloges du château de Versailles que Franck Ferrand vous fait découvrir jusqu'à 15h.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous avançons au fil de cette émission à l'heure des horloges de Versailles, du château de Versailles que vous nous faites découvrir cet après-midi,
et oui,
Franck.
Et au fil d'un certain nombre de dictionnaires, je vous propose d'en ouvrir un autre, un ouvrage magnifique d'une grande érudition. Ça s'appelle le Dictionnaire Versailles, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, sous la direction de Mathieu Davina et Raphaël Masson. Dès le règne de Louis XIV, Versailles accueille les pendules les plus extraordinaires des collections royales, nous dit le conservateur Bertrand Rondeau, comme ces deux horloges allemandes en, je cite, « argent vermeil doré » ou commandées par le jeune roi en même temps que son mobilier d'orfèvrerie tel l'horloge astronomique de 1678. Donc vous voyez qu'il y avait déjà une horloge astronomique en 1678 à Versailles, avec le soleil et la lune se mouvant dans un globe d'or et argent d'un pied de diamètre. Donc là déjà une tradition de ces objets scientifiques tout à fait extraordinaire, qui montre le mouvement des planètes. C'est ça qu'il y a de fascinant, parce que arriver à régler une pendule ou une horloge pour qu'elle soit d'une grande précision, pour qu'elle marque les dates, pour qu'elle soit une sorte d'agenda, pourquoi pas, mais arriver à la programmer pour qu'elle donne le mouvement des planètes avec tous les aléas que cela suppose, bien entendu c'est toujours une prouesse technique extraordinaire. Qui se charge de l'entretien de ces précieuses pendules versaillaises? Eh bien, figurez-vous que ce sont des valets de chambre horlogers qui possèdent un office ordinaire de la chambre du roi, qui sont sous la tutelle du grand chambellan et des premiers gentilshommes de la chambre. Et l'on trouve d'ailleurs ce même phénomène, on trouve cette même organisation chez la reine, chez les princes du sang, enfin en tout cas chez les enfants de France. Donc ce métier, si je puis dire, d'horloger à Versailles est un office à part entière. Alors quand je dis horloger, ce ne sont pas du tout ceux qui fabriquent fabriquent les horloges, en l'occurrence. Ce sont seulement ceux qui les entretiennent. Pour ce qui est des fabricants, alors là, c'est évidemment une autre affaire. En 1706, Louis XIV fait l'acquisition auprès de l'horloger Morand de Saint-Claude d'une grande pendule à carillon qui est censée démontrer, je cite, par les effets du mécanisme, la place des victoires, œuvre exceptionnelle placée dans le cabinet du billard de l'appartement intérieur du roi. Plus tard, elle sera d'ailleurs déplacée et on l'installera au XVIIIe siècle dans le salon de Mercure où elle est toujours. Et cette horloge de Morand est une chose absolument magnifique et je dois vous dire que pendant des années, à chaque fois que je passais devant, je rêvais de la voir fonctionner parce qu'elle est pleine de petits automates. Alors on m'avait expliqué qu'il y avait un coq qui chante en battant des ailes, ça dépend des heures, hein, bien entendu. Il y a une victoire qui vient couronner un buste du roi, etc. Et finalement, il y a quelques années, à l'occasion de l'inauguration du salon de Mercure restauré, j'ai pu assister à la fameuse marche des automates. J'ai vu fonctionner l'horloge de Morand. Et je dois vous dire que j'étais un petit peu déçu, mais ça fait partie des choses qu'il ne faudrait pas voir finalement. Il vaut mieux en rêver, parce que lorsqu'on les a sous les yeux, ben ça n'est jamais qu'un mécanisme charmant, certes assez étonnant pour le tout début du XVIIIe siècle, mais enfin, après tout. À la mort de Louis XIV, les inventaires nous apprennent qu'il y avait 32 pendules dans les appartements royaux de Versailles, des pendules achetées par la direction des bâtiments et qui sont à ce moment-là versées aux garde-meubles de la couronne. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre que les pendules, à la fin du règne de Louis XIV, au tout début du règne de Louis XV, sont en train de subir un changement d'état ou de statut d'une certaine manière. Elles ne sont plus vraiment des éléments de l'architecture, elles ne sont plus vraiment considérées comme des éléments même de l'ameublement, mais elles deviennent des meubles que l'on peut changer de place, que l'on peut s'échanger, que l'on peut acheter et vendre, enfin quelque chose d'un peu plus normal, si je puis dire. Et d'ailleurs, elles vont se multiplier, ces pendules, pendant tout le XVIIIe siècle, ne serait-ce que parce qu'elles sont une des passions des deux rois, Louis XV et Louis XVI. Il faut savoir que Louis XV, par exemple, c'est que Louis XV avait un tour, ce qu'on appelle un tour, c'est une espèce de plateau tournant qui permet on forge les métaux. En l'occurrence, on tourne du bois, hein, ou on tourne de l'ivoire. Eh bien, Louis XV aimait tourner le bois et l'ivoire, et en l'occurrence, il arrivait à faire des caisses de pendules en ivoire. Ce qu'on appelle les caisses de pendules, ce sont les boîtiers, si vous voulez. Et dans ces boîtiers, il installait des mécanismes tout à fait extraordinaires. Son petit-fils Louis XVI va plus loin, puisque lui, il s'intéresse aux mécanismes en tant que tels. Et l'on sait que dans les fameux ateliers que le roi Louis XVI a fait installer dans ses petits cabinets du second et du troisième étage, ces petits cabinets qui lui vaudront la triste réputation que l'on sait de la part des révolutionnaires, eh bien Louis XVI s'intéresse non seulement à la serrurerie de précision, mais aussi à l'horlogerie. Ça le passionne, ça le fascine, et il a d'ailleurs une assez belle collection, avec lui aussi des pendules astronomiques à sphères mouvantes, des pendules qui sont l'œuvre d'Antide Janvier, qui viennent s'installer dans sa bibliothèque en 1784, et en juillet 1789, le même horloger, Janvier, va livrer pour le roi une pendule astronomique à quatre cadrans et sphères mouvantes. Voyez que il y avait une fascination de la famille royale pour ces objets tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, Marie-Antoinette n'est pas en reste. On compte dans son inventaire 45 pendules en 1789, dont la plupart d'ailleurs vont suivre la reine au palais des Tuileries. C'est un goût non seulement du roi, de la reine, de la famille royale, mais d'une manière générale, c'est un goût de la haute société pour la mécanique de précision, pour l'esprit scientifique et, au-delà de tout ça, pour ce que le siècle peut faire de plus ravissant, de plus singulier, de plus raffiné. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Pour arriver à l'objet de cette émission, l'objet à tous les sens du terme, pour arriver à la fameuse horloge de passement qui, à ce jour encore, est la pendule la plus extraordinaire jamais confectionnée en France.
Simeon Passement a créé la pendule astronomique exposée actuellement au château de Versailles. Si vous avez envie de réagir à cette émission, ces horloges du château de Versailles dont nous parle Franck Ferrand, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il s'appelle Claude Siméon Passement. C'est lui qui a créé la pendule astronomique de Passement que vous pouvez voir au château de Versailles et dont Franck nous raconte l'histoire aujourd'hui.
Elle se trouve dans une pièce bien particulière du château de Versailles, cette pendule. D'abord, il faut que vous preniez, vous êtes dans la cour royale du château de Versailles, vous allez un petit peu du côté droit, vous allez entrer par une petite porte qui était la porte privée des appartements du roi Louis XV. Vous allez emprunter un escalier qui s'appelle le degré du roi. Là, vous arrivez dans une première antichambre qui s'appelle l'antichambre des chiens, car c'est là que le roi, dans des niches qui étaient installées tout autour de la pièce, réservait ses chiennes couchantes. Et puis, vous passez dans la deuxième antichambre, avant d'aller vers la chambre où le roi dort réellement, parce que vous savez qu'il y a plus loin la grande chambre de Louis XIV où ont lieu les cérémonies du lever et du coucher. Mais là, avant d'arriver dans la chambre dite du lit, la chambre où dort le roi, vous êtes dans la deuxième antichambre. Et bien depuis 1754, cette deuxième antichambre, qui est un peu la pièce réservée aux sciences dans l'appartement du roi, cette pièce s'appelle le cabinet ou le salon de la pendule, parce que c'est là, justement, qu'a été installée cette fameuse pendule de Passement. Elle n'a pas été fabriquée à la demande du roi, cette pendule, il faut le dire. Elle a été créée de la propre initiative d'un homme étonnant, ce fameux Claude Siméon Passement, dont vous nous avez donné le nom à Anissa. Il était né en 1702 et à l'âge de 29 ans, il se lance dans la conception de ce mécanisme d'une complexité absolument étourdissante. Il va s'agir de donner la position des planètes sans aucune limite de temps, jusqu'en l'an, et là tenez-vous bien, 9999. Pourquoi pas jusqu'en l'an 10 000? Ben parce qu'il n'y a que 4 cases dans le petit répertoire qui recueille les millésimes, vous savez. Donc évidemment, si on arrive à 10 000, il faudrait ajouter une case de plus, mais à la limite, il aurait sans doute pu, puisque au point où on en était. 9999, c'est un peu le nom d'ailleurs que Julia Kristeva donne à la pendule elle-même, à cet engin qui est assez fascinant, évidemment, puisqu'il abolit d'un seul coup le temps, ou pour être plus exact, qu'il le rend plus conscient, plus présent, en nous donnant le sentiment que la technique, que la mécanique et donc que l'intelligence humaine nous permet de nous projeter aussi loin dans un futur qui ne pouvait qu'être parfaitement utopique, bien entendu. Qui était-il, ce Passement ? Oh, c'était un opticien, c'était un astronome, bref, c'était un homme de génie, disons-le. Il s'est quand même assuré de l'assistance d'un horloger pour travailler. L'horloger, c'est Louis d'Authiot, qui va travailler avec lui. Et voilà ce que nous dit dans ses mémoires le duc de Luynes. Le duc de Luynes, c'est un peu le Saint-Simon du règne de Louis XV. Le talent en moins, mais très précis, très intéressant. D'ailleurs, si je devais faire une comparaison, ce serait plus avec d'Anjou qu'avec Saint-Simon. Passement a été 12 ans à imaginer sa pendule et à en faire les calculs, et 8 ans à travailler. Et le sieur d'Authiot, horloger, n'a pas employé moins de 12 ans pour faire le mouvement, nous dit le duc de Luynes. La pendule est présentée en 1749, le 23 août 49, à l'Académie royale des sciences. Elle fait tout de suite l'admiration des scientifiques, si j'ose employer cet anachronisme, de l'époque. Elle est capable quand même, on ne pouvait trouver en 3000 ans un seul degré de différence avec les tables astronomiques. Je ne sais pas si vous imaginez l'extraordinaire précision de l'engin. Et munie de cette consécration, en quelque sorte, la pendule est ensuite présenté au roi dans sa résidence de Choisy le 7 septembre 1750. C'est le duc de Chaulnes qui va présenter la pendule. Il lit au roi le certificat qui a été décerné par l'Académie à Passement. Et le roi, bien entendu, mais ça c'était une tradition, ça n'a rien de très extraordinaire, le roi fait l'acquisition de cet objet, puisque c'est la plus belle pendule de la chrétienté, comme on aurait dit à l'époque. Il était tout à fait normal que le roi de France en soit propriétaire. Mais à l'époque où Louis XV acquiert la pendule, ce n'est encore qu'un mécanisme qui se trouve dans une boîte de bronze, simplement, assez simple, assez classique, sans doute assez épurée même, et très ouverte pour permettre de voir tout le mécanisme. Mais évidemment, pour être exposé à Versailles, il va falloir l'habiller, cette pendule. Et c'est là que les choses, j'allais dire, se corsent. En tout cas, c'est là qu'elles prennent corps, pour être plus exact. La pendule va prendre une forme assez anthropomorphique, qui ne m'avait pas sauté fait aux yeux jusqu'à ce jour, mais que l'ouvrage de Julia Kristeva permet de comprendre d'une manière assez extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on va présenter ensuite au roi, en 1754, la pendule finie, habillée. Qu'en a pensé Passement ? C'est assez difficile de le dire, assez difficile de le savoir, parce que, comme l'écrit Julia Kristeva elle-même, on ne possède sur ce passement, on trouve, dit-elle, des descriptions de la fabuleuse pendule, mais aucune trace de l'inventeur lui-même, aucune, ni aux archives de Versailles, ni aux archives nationales, ni dans quelques lieux secrets. Alors, que peut-on dire, que peut-on savoir de Passement, hein, quand on est patient et quand on est tenace, comme peut l'être Julia Kristeva ? On trouve la réponse à ces questions, elle va nous la donner, cette réponse, dans un instant. Bonjour Julia Kristeva, merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Avec vous, nous allons donc revivre l'aventure de la pendule astronomique et puis, au-delà, essayer de comprendre l'état d'esprit de ces inventeurs du XVIIIe siècle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, c'est l'heure de remettre toutes les pendules à l'heure, hein, grâce à Franck Ferrand
c'est
et Europe 1. Oui, c'est Pink Floyd, ouais, effectivement. Alors effectivement, on parle des horloges du château de Versailles et l'horloge astronomique en particulier. Vous recevez Julia Kristeva, Franck Ferrand, écrivain, psychanalyste, professeur émérite à l'université Paris 7 Diderot.
Alors Julia Kristeva, il faut que nous revenions sur toute cette histoire. D'abord, il faut peut-être qu'on commence par la décrire, cette extraordinaire horloge de passement qui fait 2,26 m de haut, hein, 7 pieds on disait à l'époque. C'est assez spectaculaire, bien entendu. Elle est en photo dans votre livre et vous en donnez la description qui est celle des archives. Oui. Aux pages 47 et 48. Alors, j'ai renoncé, moi, à lire cette description parce que, si poétique qu'elle soit, elle ne parle pas beaucoup à l'esprit de nos contemporains, forcément. Il faut s'y connaître un tout petit peu en technique et en mécanique horlogère pour comprendre de quoi il s'agit. Mais disons déjà que son habillage de bronze tout à fait extraordinaire et signé des Caffieri, c'est considéré comme le chef-d'œuvre de la bronzerie française baroque, hein, ce qu'on appelle rocaille, une espèce d'extraordinaire accumulation de volutes, de rinceaux, de lambrequins, de palmes, enfin tout ça est incroyable, avec un grand cadran central qui est à peu près à la place de la poitrine si l'on compare l'horloge à un être humain, avec une tête, si je puis dire, qui serait le fameux globe de cristal dans lequel s'animent les planètes, et puis avec un balancier qui, lui, est situé en position assez sensible. Je vous lis, Julia Kristeva. Une énorme tête et plutôt deux sphères qu'une, le globe solaire avec toutes ses planètes, surmonte la boule du cadran. Mais la silhouette de cet automate est sans bras. Toute son habileté se serre élégamment dans sa taille, qui la svelte comme celle d'un danseur de menuet. La force mâle est plantée entre les jambes, cuisses et mollets sportifs qui s'écartent pour mieux encercler le trésor du personnage. Son gigantesque pendule, constitué d'une lourde masse en cuivre doré, suspendue à sa tige, pouvant osciller autour d'un axe de rotation et permettre ainsi de réguler les mouvements de l'horloge. Eh bien voilà, on n'est jamais très loin de la psychanalyse, d'une certaine manière.
Mais écoutez, oui, et au-delà de la psychanalyse, j'essayais à travers cette horloge de parler des mystères de l'être humain et aussi de rendre ce chef-d'œuvre contemporain. Parce que je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre d'une émission historique, mais le roman que j'ai fait est en partie historique, parce qu'il attire l'attention sur cette prouesse.
Sur un moment du règne de Louis XV, on peut le dire.
Sur un moment du règne de Louis XV dans lequel on voit frémir les lumières et l'esprit de la Révolution, donc on va peut-être y revenir, mais aussi de montrer combien tout cela nous concerne. Et de faire de ce roman, ce que certains critiques ont dit, un roman total. On appelait ainsi les romans du XVIIIe siècle parce qu'à travers une histoire, et il y a beaucoup d'histoires dans ce livre, on pose des questions qui sont philosophiques, qui sont sexuelles, qui concernent la sexualité ancienne et moderne. Donc pour attirer le touriste à ne pas être touriste, mais à s'interroger sur le passé et le présent.
Il faut dire que cette horloge de passement possède une vie propre, qu'elle a un magnétisme assez étonnant. On sait que pendant tout l'Ancien Régime, jusqu'au 1er janvier 1789, la famille royale se réunissait autour de la pendule pour voir passer, pour voir changer l'année, parce qu'on voyait le petit millésime qui changeait évidemment dans le cadre du bas. Et puis par la suite, la pendule est devenue en tant que telle un objet de visite, c'est-à-dire que même dans les périodes où on ne visite plus le château de Versailles, où tout le monde s'en moque, je pense à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, on vient quand même voir l'horloge de passement dans le salon de la pendule, c'est assez étonnant. Et aujourd'hui, alors j'ai fait cette expérience un nombre incalculable de fois, lorsque vous êtes avec un groupe de visiteurs, les gens bavardent, vous savez comment ils sont, ils bavardent, ils traînent un peu, ils font des photos, maintenant on fait des selfies, c'est la mode. Bon. Et puis d'un seul coup, ils arrivent devant cette pendule, et là c'est le silence total, les yeux qui s'arrondissent comme des billes, et tout le monde regarde l'objet.
Écoutez, moi je suis tout à fait fascinée par ce que vous venez de dire, parce que vous avez décrit avec beaucoup de précision et avec votre passion de la langue française, une grande beauté qui est contagieuse. Mais j'ai essayé de faire passer cela dans mon livre à ma façon, ce culte de la beauté et ce souci de, sinon maîtriser, c'est de vivre le temps. C'est une civilisation extrêmement importante, cette civilisation du XVIIIe siècle, qui annonce la nôtre. Il va y avoir à partir de là, 30 années après l'installation de cette pendule, des fissures extraordinaires, la révolution, oui. La guillotine. On est là dans une ouverture du temps entre la cour des serfs, le parc aux serfs et la guillotine,
qui était la maison de plaisir de Louis XV,
voilà, et la guillotine, et tout ce monde était fasciné par le temps non seulement qui passe, mais par un temps qu'on peut penser. Et autour de cette esthétique, autour de cet art baroque, cette rocaille et le plaisir que ces gens éprouvaient, il y avait d'abord le souci de voir comment ça marche, c'est-à-dire d'observer la technique. Louis XV demandait à Passement de lui faire des montres dans lesquelles qui soient ouvertes et qu'on voit le mécanisme. Donc il se souciait déjà d'une certaine forme de technicité,
oui, voilà,
comment ça marche. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça révèle une autre philosophie dont vous n'avez pas encore parlé, qui est cette philosophie qui vient du XVIIIe siècle et qui consiste à se demander qu'est-ce que cela veut dire le temps.
Et voilà.
Est-ce qu'il y a un maître du temps? Est-ce que, puisque nous sommes mortels, quel est le sens de la vie? Et une phrase de Voltaire, que je vais faire personnage de ce livre, parce qu'il adorait Madame de Pompadour, et il y a une correspondance qui est très drôle entre eux, il dit cette phrase que j'aimerais bien qu'on entende à côté de cette magnifique description que vous avez faite de l'objet, qui est la suivante. « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » C'est-à-dire l'horloge, nous sommes un monde qui est une horloge, tout peut se régler, nous pouvons être des techniciens du monde et avec les droits de l'homme, la jurisprudence qui a remplacé l'Église, on va gérer l'histoire de l'humanité et l'actualité, mais qui est l'horloger?
Et voilà, Voltaire a encore besoin d'un grand horloger, voilà. D'autres s'en affranchiront bientôt.
Voilà, après il sera déiste.
Dès Diderot du reste. Hein.
Dès Diderot, on va être dans l'athéisme, mais, et c'est là que j'interviens avec mon angoisse de post-moderne, à savoir, vous savez, aujourd'hui, dans quel temps vivons-nous? Nous vivons dans des fissures qui rappellent l'époque de Passement. On reviendra sur sa biographie tout à l'heure, mais c'est une époque à la fois magnifique, avec cette beauté que vous avez décrite, mais c'est la banqueroute de l'os. C'est la marche rouge, c'est l'attentat contre le roi, c'est les différents conflits qui explosent entre les jansénistes, les jésuites, le parlement lui-même qui s'oppose au roi. On a déjà une fissure du monde et en même temps c'est les encyclopédistes. Madame de Pompadour va se photographier avec les volumes,
se
portraiturer avec les volumes de l'encyclopédie. Mais en même temps, nous avons hérité de tout cela. Nous avons hérité de cette horlogerie, en quelque sorte. Comment on va pouvoir maîtriser le ciel? À l'époque, c'était le combat entre les rationalistes cartésiens et les newtoniens. Les newtoniens avec Voltaire, que Passement semble avoir lu et qui déduit de Voltaire qu'on peut calculer le ciel Et en calculant le ciel, nous sommes peut-être pas maîtres du ciel, mais nous avons le pouvoir induire Dieu de notre propre connaissance. Donc, vous voyez, il y a déjà un détachement du religieux. Question qui se pose aujourd'hui. Nous interrogeons l'islam avec ses intégrismes, la religion chrétienne aussi. Mais nous nous demandons également pourquoi la sécularisation fait que tout explose également aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons raté au moment des Lumières? Et le débat qui s'est fait autour de l'horloge, entre Passement et Émilie du Châtelet, entre Voltaire et Leibniz, pose les questions de l'infini. Pouvons-nous apprivoiser l'infini? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de le penser? C'est une question posée à notre contemporanéité, notre vision du divin.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Julia Kristeva, écrivain, psychanalyste, professeur émérite à l'Université Paris 7 Diderot et auteur de L'horloge enchantée, un roman paru chez Fayard cette année, un roman consacré à l'inventeur de l'horloge astronomique, Claude Siméon Passement.
Alors justement, vous aurez remarqué, Anissa, qu'il y a une Arlésienne jusqu'ici dans cette émission, plutôt un Arlésien, c'est Passement lui-même, parce qu'on parle beaucoup de son horloge, on parle de Louis XV, de Madame de Pompadour, bien sûr de Voltaire et d'Émilie du Châtelet, de tous ces gens de cette époque, mais on oublie l'inventeur de l'horloge. Qui est Claude Siméon Passement, cette espèce de fantôme de la science, Julia Kristeva?
Évidemment, la science historique, cher Franck Ferrand, la vôtre, ne savait rien concernant ce grand homme, et j'ai eu l'occasion d'entrer dans les bibliographies, divers documents de Versailles, mais il n'y avait rien sur lui. Par conséquent, je me suis adressée aux archives nationales et en particulier aux minutiers et j'ai découvert d'abord un ouvrage de son gendre, Sue le Jeune.
Sue le Jeune, oui.
Et puis énormément aussi de correspondances entre Passement, Madame Pompadour et aussi des grands de son temps, Normand Le Tournem.
Normand Le Tournem était le directeur général des bâtiments, c'est-à-dire une sorte de super ministre de la culture, disons.
Tout à fait. Il y a aussi Soufflot, il y a Cassini, il y a des hommes extrêmement importants.
Cassini, personnage majeur. Hein.
Qui est preneur, comme on disait à l'époque. Et de fil en aiguille, en consultant aussi son testament, les éléments qu'il a laissés, des émaux par exemple sur la sortie d'Égypte ou sur le Christ, la mort du Christ, la résurrection du Christ, des livres sur le célibat des prêtres, sur l'abstention, sur des éléments très intimes de la vie, le fait qu'il a consulté le roi et le roi avait mal à la tête pendant que lui aussi il avait mal à la tête. Ils parlaient tous les deux de leur maux de tête et comment il était fasciné par le fait que Louis XV s'intéressait beaucoup à la mathématique mais aussi à l'architecture avec le père et fils Gabriel, etc. J'ai vu le personnage et j'essayais de le ressusciter en utilisant à la fois ce qu'on nous donne dans les archives et en le transposant à travers une invention romanesque dans un survivant qui l'aurait, la question se pose parce qu'il y a quelques générations, qui s'appelle aussi Passement et qui est aujourd'hui l'amant de mon personnage, de la narratrice qui me représente, une psychanalyste.
Je, souvent, pas toujours d'ailleurs.
Voilà, mais... qui est fascinée par l'histoire. Elle adore cette histoire et elle se projette de manière empathique avec l'horloge et Madame de Pompadour, Émilie de Châtelet et le roi lui-même, qu'elle adore, n'est-ce pas? Contrairement à beaucoup de Français qui trouvent que ce grand roi est un faible et simplement un libertin.
Oui, on connaît mal Louis XV, en
moi,
fait.
Moi, je
oui.
suis devenue, en effet, amoureuse de lui et j'essaie de le restaurer aussi avec vous. Et aussi Madame de Pompadour, parce que vous dites que vous avez voulu faire un apocryphe sur Madame de Pompadour, mais j'en ai fait un parce que je fais se rencontrer Madame de Pompadour et Passement autour de l'horloge. Donc, on sait maintenant qu'il a été marié, qu'il avait un père qui avait une femme qui s'appelait Louise. Deux filles, donc une Aubine qui est la femme de celui qui a fait sa biographie, et il est l'enfant de son père d'un étranger qui s'appelait Théo l'Alban, qui est devenu français 4 ans après la naissance de Passement, donc en 1704, qui est devenu français donc à ce moment-là. Il a pris ce nom de Passement. parce qu'il était mercier. Il a fait des études au collège Mazarin.
Il était externe. À l'époque, on appelait les merciers, on les appelait souvent les passementiers.
Les passementiers, d'où le fait de ce mot. Mais la mère était extrêmement ambitieuse. Elle a voulu qu'il soit dans le barreau. Il a perdu son père au moment de l'affaire Loss. Il est devenu assez mélancolique à ce moment-là. Et sa mère lui a donné des livres pour se distraire. Et le seul qui l'a vraiment distrait, c'était le livre de Nicolas Bion, qui s'appelait Usage des globes terrestre et céleste, et de fil en aiguille, il arrive à Huygens, à Newton, etc. C'est un homme extrêmement douloureux, mélancolique,
torturé, et que vous nous présentez comme un intellectuel avant l'heure, d'une certaine manière, quelqu'un qui fuit beaucoup quand même dans la pensée, dans le raisonnement et dans l'abstraction.
Alors, tout à l'heure, quand vous disiez que vous préférez ne pas entendre la sonnerie, mais l'imaginer dans votre esprit, il est un peu comme vous. Il a gardé dans son esprit non seulement l'amour de Madame Pompadour, mais aussi cette représentation du temps humain, de l'expérience humaine, comme une espèce d'appropriation par les humains du pouvoir divin, qui à la fois l'exaltait et le rendait extrêmement modeste et déprimé. Qui suis-je?
Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est de tous les temps, lui? Et c'est ce qui est assez fort à mesure qu'avance le lecteur dans votre ouvrage, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas de son temps, qu'il est ailleurs, qu'il est de 9999 d'une certaine manière.
Je pense qu'il a cette dimension, en tout cas on peut l'imaginer comme ça. Vous savez, j'essaie de le décrire dans ce roman à travers souvent le discours de Saint-Simon qu'il ne pouvait pas connaître parce qu'il a arrêté ses mémoires en 23.
C'est-à-dire que, bizarrement, Saint-Simon était toujours de ce monde à l'époque, mais il avait arrêté ses mémoires dès la Régence.
Voilà, mais il a décrit des savants du type Passement, et qu'il imaginait comme faisant partie de conseils, les polysynodi, qui remplaçaient les ministres et qui étaient des experts. Et ces gens-là nous font penser aujourd'hui à tous les experts dans tous les niveaux, qui essayent de faire marcher la sécularisation, sauf que avec des techniques diverses, en serrant les vis, en mettant des lentilles, en mettant des jambes ou en levant des bras, enfin en tout cas en bricolant notre actualité, mais qui n'ont pas de grand architecte, qui n'ont pas de grand horloger. Passement avait les deux, il était une complexité des lumières qui nous manque. Mais aussi, je le mets un peu en difficulté lui aussi, parce que je suis féministe, comme vous savez, et j'ai trouvé qu'à côté de lui, il y avait une autre personne qui pensait le temps, mais de manière très différente, un peu à l'opposé de Voltaire, qui était son amant, c'est Émilie du Châtelet, qui a écrit...
Personnage fascinant.
Fascinant. Donc, il faudrait que vous fassiez peut-être une émission
sur
elle.
On l'a fait déjà, mais on pourrait en refaire une avec vous, si vous voulez.
Non, mais enfin, c'était pour dire que son discours sur le bonheur, par exemple, où elle dit comment le bonheur est compatible avec l'illusion, à condition de ne pas se contenter de la reproduire, mais de jouir de l'illusion. C'est quelque chose de très moderne. Et contre Newton, elle dit évidemment, il y a la gravitation, mais il y a l'infini de l'univers, et cet infini ne peut pas se mettre en boîte, ne peut pas se calculer, il peut se penser à travers les mathématiques. Et elle invente une temporalité cosmique, dans un livre qui a séduit, mais en même temps un peu estomaqué, si j'ose dire, l'Académie, parce qu'elle parle d'une substance qu'elle appelle le feu, et qui n'est pas étendu, donc il n'est pas calculable, on ne peut pas la mettre en boîte, on ne peut pas faire des bronzes, des jambes, des automates, et il appelle le feu. Et on trouve aujourd'hui le passement qui représente aujourd'hui pour moi, donc ce cosmonaute actuel qui représente l'ancien passement, les cosmonautes d'aujourd'hui, les astrophysiciens appellent cela la matière noire. Donc Émilie,
Elle a eu l'intuition de la matière noire. L'ancêtre
de la matière noire. En fait, donc c'est un monde magnifique, cette époque.
On réalise que cette période, ce Versailles des Lumières, d'une certaine manière, est allé très loin, en vérité. C'est un moment d'épanouissement de l'esprit, vraiment, et de combat aussi de l'esprit.
On cite souvent une phrase de Mitterrand que Versailles, c'est les meubles de la République.
Oui. Moi, je trouve il disait à Versailles, la République est dans ses meubles.
Dans ses meubles. Et bon, je trouve que Versailles a le cœur de la République. C'est le cœur de la République qui bat, le cœur de la sécularisation aussi. Encore faut-il le voir. Et vous avez raison de dire quelque part que ça ne se cache pas dans les coulisses. Ça s'exhibe aussi bien dans l'horloge que dans l'expérience d'Émilie de Châtelet.
Merci beaucoup, Julia Kristeva. Le roman s'appelle tout simplement « L'horloge enchantée ». Et c'est exactement ce dont il est question. Et je signale également chez Fayard la reparution du mariage considéré comme un des beaux-arts avec Philippe Solers. Et j'ai cité tout à l'heure dans le récit le dictionnaire Versailles sous la direction de Mathieu Davina et Raphaël Masson. C'est dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Merci beaucoup.
Et nous allons continuer de parler du temps, puisque Violaine vous a posé une question, Franck, au sujet de deux expressions où il est question du temps qui passe.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est Violaine qui vous écrit, Franck, sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Alors, elle vous demande l'origine de deux expressions. Il est question de temps. Attendre 107 ans et s'en moquer comme de l'an 40.
Attendre 107 ans, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. C'est attendre très longtemps, trop longtemps, il semblerait. Alors, il faut toujours prendre ça avec certaine prudence, vous le savez. Mais il semblerait que ces 107 ans soient la durée de la construction de la cathédrale de Paris, de Notre-Dame, qui a commencé, ça c'est incontestable, en 1163, sous le règne de Louis VII, bien entendu, et qui finit plus ou moins, en tout cas on peut considérer que la cathédrale est achevée sous le règne de Philippe VI de Valois en 1345. Donc si vous faites 1345 moins 1163, ça fait nettement plus de 107 ans. Mais en tout cas, on considérait voilà que c'était la durée de construction de cette cathédrale. Voilà peut-être, je dis bien peut-être, l'origine de l'expression. Alors pour ce qui est de s'en moquer comme de l'an 40, alors là en revanche, on sait vraiment d'où ça vient. Ça n'a rien à voir avec l'an 40 avant, après Jésus-Christ, ni de l'an 1040, ni rien à voir non plus avec l'an 1940. Cette expression vient d'une vieille expression française qui disait s'en moquer comme de l'Alcoran. L'Alcoran, c'était le Coran, tout simplement, le livre saint de l'islam. Et évidemment, autrefois, on disait se moquer, évidemment, c'était le dernier souci des chrétiens dans les pays, en France. Et donc, on disait qu'on se moquait de telle ou telle chose comme de l'Alcoran. Et c'est devenu, petit à petit, en déformant la phrase, s'en moquer comme de l'an 40. Voilà l'origine.